La lecture de ce soir est tirée de l'Épître de Pierre, chapitre 5. Maintenant, je parle aux anciens qui sont au milieu de vous. Moi, je suis ancien comme vous. J'ai été témoin des souffrances du Christ et je dois participer à la gloire qui va paraître. Prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Ne faites pas cela par devoir, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non pour gagner de l'argent, mais par amour. Avec ceux que Dieu vous a confiés, ne soyez pas des chefs durs, mais devenez les modèles du troupeau. Ainsi, quand le chef des bergers viendra, vous recevrez pour toujours une récompense pleine de gloire. Vous les jeunes, obéissez aux anciens, et vous tous, faites-vous petits les uns devant les autres. Les livres saints disent « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est bon pour les petits ». Faites-vous petits sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Vous le savez, dans le monde entier, vos frères et sœurs chrétiens souffrent comme vous. Vos souffrances vont durer un certain temps. Mais Dieu qui vous aime tant vous a appelé à participer à sa gloire sans fin, en étant unis au Christ. Alors, il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. À lui la puissance pour toujours. Amen. Je vous écris ces quelques mots par Silas. Pour moi, c'est un frère fidèle. Je vous envoie cette lettre pour vous donner du courage et pour vous dire, voilà le vrai don de Dieu. Restez attachés à ce don. L'Église qui est à Babylone vous salue. Dieu l'a choisie comme vous. Marc, mon fils, vous salue aussi. Saluez-vous tous en vous embrassant avec amour. Paix à vous tous qui êtes unis dans le Christ.
J'aime beaucoup le personnage de Pierre. Aussi bien dans les évangiles que la place qu'il occupe dans l'Église. Dans les évangiles, c'est celui qui est plein de zèle pour Jésus. C'est lui qui imagine remporter une victoire sur l'occupant romain, à nouveau prendre et diriger Jérusalem avec Jésus. Et puis quand on lit les évangiles, on se rend compte que, il tombe de haut, ce pauvre Pierre, en reniant trois fois le Christ. Alors, dans cet épître, c'est un Pierre transformé qu'on découvre. Ce qu'il dit ici semble tellement différent de ce qu'on voit dans les évangiles que certains disent que ce n'est pas le même Pierre vraiment dont il s'agit. Moi, je préfère y voir un Pierre qui a mûri. Une trentaine d'années environ après les événements de la croix, il a eu le temps de mûrir dans sa foi et dans son expérience de l'Église. Alors c'est ce Pierre transformé qui s'adresse à une église qui doit faire face à la persécution et aux difficultés. Lui qui a abandonné ses espoirs de grandeur et de victoire, il veut préparer ceux qui vont devoir prendre le relais une fois qu'il ne sera plus là. Alors il s'adresse aux anciens. Les anciens qui sont aujourd'hui, on a traduit ça par conseillers de paroisse ou conseillers de région. Voilà, c'est une bonne partie d'entre vous. Et puis les jeunes. Les jeunes, c'est tous les autres. Hein? Quand on vous dit qu'en église, on reste jeune longtemps. Hein? Voyons donc ce que Pierre a à nous dire comme encouragement ce soir. Quand il s'adresse aux anciens, c'est finalement à toute personne qui occupe une charge ou une responsabilité qu'il s'adresse. Pas uniquement en Église d'ailleurs, Je pense que ça peut aussi s'appliquer aux parents, aux patrons d'une entreprise, aux cadres, etc. Aux politiciens aussi, vu que c'est un peu le thème d'aujourd'hui aussi, avec des élections. Et quand il s'adresse à ces anciens, il emploie cette image du berger. C'est une image dans la Bible qu'on trouve à de nombreuses reprises, des fois de manière très concrète. Je pense à Moïse, par exemple, qui, après avoir fui l'Égypte, travaille comme berger pour son beau-père avant de pouvoir enfin accompagner le peuple hors d'Égypte vers la terre promise. Plus tard, on va trouver David, lui aussi un berger qui devient roi. Et puis Jésus, qui à de nombreuses reprises parle de lui-même comme du bon berger. Mais pour Pierre, justement, cette image du berger et des moutons, elle occupe une place toute particulière, surtout si on se tourne à la toute fin de l'évangile de Jean. Après le repas, Jésus demande à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu as plus d'amour pour moi que ceux-ci ? » Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Une deuxième fois, Jésus lui demande, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre lui répond, « Mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Une troisième fois, Jésus lui demande, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre est triste parce que Jésus lui demande une troisième fois, « Est-ce que tu m'aimes ?» Et il dit à Jésus, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Oui, je te le dis, c'est la vérité, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Un autre te mettra ta ceinture et il te conduira là où tu ne veux pas. » Par ces paroles, Jésus annonce de quelle façon Pierre va mourir et donner de la gloire à Dieu. Ensuite, Jésus dit à Pierre, « Suis-moi. » Dans l'Antiquité, le berger, ce n'était pas un personnage très bien vu. On s'en méfiait. On se disait, ces bergers, on ne peut pas leur faire confiance. Ce sont des menteurs, ce sont des tricheurs, ce sont des voleurs. Et pourtant, c'est cette image-là. Non seulement on voit des bergers devenir rois, mais c'est aussi ce métier que Jésus choisit pour s'identifier, quand il dit « Je suis un bon berger ». C'est ce métier-là qu'il prend pour exemple quand il dit à Pierre « Sois un berger pour mes moutons ». Et c'est encore cette image que Pierre utilise. Alors moi, je suis un citadin. Je vois autour de mes reins en été des moutons qui servent un peu de tondeuse et puis qui broutent par-ci, par-là. Mais je n'ai pas l'expérience du berger. Peut-être certains d'entre vous connaissent des bergers personnellement, savent un peu mieux, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'être berger ? Alors j'ai repensé à un court-métrage qui a été tourné dans les Alpes valaisannes et qui raconte en 5 minutes et quelques un peu la vie d'un berger et de sa femme. Le berger s'appelle Damien Jeanneras, sa femme c'est Claire. Et j'avais envie de vous partager un petit extrait, 40 secondes environ, de ce reportage. Ici.
On a même le vétérinaire qui nous dit que Damien ne peut pas être un agriculteur. C'est un berger déjà, il y a une différence entre un agriculteur et un berger, parce qu'il aime trop ses animaux. Alors ils ne peuvent pas prendre des fois des décisions qui sont difficiles parce qu'il ne veut jamais voir mourir un animal et il va toujours essayer jusqu'au bout de le sauver parce que le cœur est là. Il n'y a personne d'autre qui peut imiter ça ou arriver au même niveau.
Ça me sort naturellement, c'est comme... Je n'arrive pas à expliquer cette sensation de... Ben c'est quand t'aimes quelque chose, c'est comme ça.
Il aime trop ses animaux, c'est ce que dit Claire à propos de son mari. Et je me dis, c'est un peu ce que dit Pierre. C'est un peu ce que dit Pierre quand il peint votre portrait de conseiller. Ou plutôt, quand il décrit ce à quoi vous êtes appelé. Ce que vous êtes appelé à être pour cette église et pour ses paroisses. Prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Ne faites pas cela par devoir, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. C'est son premier encouragement. Cette attitude fondamentale qui habite tout berger, tout ancien, tout conseiller. De faire ce qu'il ou elle fait de bon cœur, pas par obligation. Parce qu'il en a envie et parce que ça lui procure du plaisir. Il y a quelque chose de presque naturel là-dedans. Et il ajoute droit derrière, « Agissez non pour gagner de l'argent, mais par amour. » C'est-à-dire, cherchez à donner, plus qu'à recevoir ou à prendre. Chacune et chacun d'entre vous, peut-être que vous ne le réalisez pas, mais vous avez tellement de choses, tellement de belles choses à donner. Alors n'ayez pas peur de donner et de vous donner aux autres, d'en faire profiter les communautés qui vous sont confiées. Troisièmement, avec ceux que Dieu vous a confiés, ne soyez pas des chefs durs, mais devenez les modèles du troupeau. Aujourd'hui, on appellerait ça le leadership par l'exemple. C'est un truc qu'on utilise quand on a des formations au leadership. Vous êtes appelés à être des exemples pour vos communautés. Et vous-même, vous avez un modèle qui vous est donné, un modèle de berger. Puisqu'après tout, vous êtes des petits bergers, pour ainsi dire. Il y a un souverain berger qui est le Christ et qui est notre exemple à chacune et à chacun. Ça signifie que la qualité de votre leadership en tant que conseiller de paroisse ou de région, ça vaut aussi pour les consistoriaux, ça vaut aussi pour ceux qui sont à la direction dans les hautes sphères de l'EPG. La qualité de votre leadership, elle est directement liée à la qualité de votre relation à Dieu. Donc, pour prendre soin de vos communautés, prenez soin aussi de votre vie spirituelle. Parce que c'est seulement en prenant soin de cela, de votre relation au Christ, que vous pourrez être des modèles de relation au Christ pour les autres. Avoir cette sagesse de donner à votre troupeau, plutôt au troupeau qui vous est confié, de bonnes choses à manger et de le protéger. Comment nourrir vos communautés? Eh bien, en les amenant à se délecter de la parole de Dieu. Comment les protéger? En gardant un œil ouvert sur tout ce qui pourrait venir semer la panique, le trouble, le conflit dans ces communautés-là. Je ne vais pas tout lister, ce qui pourrait venir mettre le pétchi, je crois qu'on en a généralement une assez bonne idée. Et après, Pierre s'adresse aussi aux jeunes, c'est-à-dire à tous les autres. Et il dit « Obéissez aux anciens ». Alors, a priori, c'est un verset où on se dit « Oh non, quand même, obéir, on n'aime pas trop ce genre d'impératif en Église, quoi. Ah, il faut obéir. » Mais c'est un impératif qui vient après avoir décrit ce qu'est un bon berger, à savoir quelqu'un qui se met au service de l'autre, qui a du plaisir à le faire, qui ne cherche pas son propre intérêt. Moi, c'est une figure à laquelle j'aurais envie d'obéir, à laquelle j'ai envie de faire confiance. Le maître mot de cette deuxième partie du texte, c'est le mot « humilité », qui est d'ailleurs un mot-clé pour l'ensemble de l'épître. Humilité et soumission les uns envers les autres. C'est l'une des principales caractéristiques de celui, de celle qui se place sous cette main puissante de Dieu. Dieu qui s'est fait petit en Jésus, qui s'est fait fragile, qui s'est fait humain comme nous. Alors lorsque nous nous mettons à la suite du Christ, on doit le suivre aussi dans cette posture d'humilité, d'abaissement et de service les uns pour les autres. Que l'on soit en position d'autorité dans l'Église ou qu'on soit simple paroissien. Humilité aussi vis-à-vis de Dieu, en nous déchargeant sur lui de nos soucis. Quand on considère la tâche qui est la nôtre, qui est la vôtre, cette responsabilité de prendre soin de l'Église, de prendre soin les uns des autres, je crois qu'on peut avoir deux réactions. La première, c'est de se dire « Ah, on va leur montrer comment on fait. Ça va être super. » La deuxième, c'est de se dire « Catastrophe, comment est-ce qu'on va y arriver ? C'est impossible. » Dans les deux cas, on place sur nos propres épaules toute la charge de l'Église et de son avenir. Mais ce n'est pas à ça que vous êtes appelés. Je crois que c'est quelque chose d'important. L'Église a déjà un sauveur. Elle n'a pas besoin d'avoir de plus petits sauveurs qui portent en eux toute cette charge et toute cette responsabilité. Vous n'êtes pas appelés à être des super-héros ou des mini-messies pour l'Église protestante de Genève. Si on essaye, immanquablement, on va échouer. D'où l'importance de cette posture d'humilité, c'est-à-dire de mettre nos soucis dans la main de Dieu, comme Pierre l'écrit, parce qu'il prend soin de vous, lui qui est le souverain berger. L'humilité, c'est pouvoir reconnaître nos besoins, nos insuffisances, nos incapacités, de pouvoir les présenter à Dieu en lui disant « Mais tout seul, on ne va pas y arriver. On a besoin de toi, on a besoin de ton aide, on a besoin du souffle de ton esprit pour pouvoir prendre soin vraiment les uns des autres. » C'est seulement lorsque nous sommes humbles que Dieu, le Saint-Esprit, a de la place pour agir dans nos vies et dans nos communautés. Mais il ne nous dit pas pour autant que ce sera facile. Il ne dit pas que nous n'aurons pas à faire face à l'adversité. Mais il vient nous rappeler quelle est notre espérance, c'est-à-dire où est-ce que notre regard se porte. Vos souffrances vont durer un certain temps, mais Dieu qui nous aime tant vous a appelé à participer à sa gloire sans fin en étant unis au Christ. Alors il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. À lui la puissance pour toujours. Amen. » Il termine même cette phrase par un « Amen » tellement elle est forte et puissante. Alors que nous soyons conseillers de paroisse, conseillers de région, prédicateurs, pasteurs, membres du consistoire, secrétaire général de l'EPG, que nous soyons simples paroissiens, catéchètes, quelles que soient les casquettes, seules ou multiples que vous pouvez porter, que nous pouvons porter, revêtons-nous d'humilité dans un esprit de service. C'est là ce à quoi nous sommes appelés. Sachons présenter devant Dieu nos besoins et nos difficultés en prenant pour modèle le souverain berger afin de pouvoir être des modèles les uns pour les autres. Et je termine avec ce tout dernier verset de Pierre. « Paix à vous tous qui êtes unis dans le Christ. » Amen.